France Musique. Les grands entretiens, Thomas Verkracht.
Je suis Bruno Mantovani, compositeur et chef d'orchestre.
Bonjour Bruno Mantovani.
Bonjour Thomas Verkracht.
Bruno Mantovani, on est chez vous à Saint-Maur-des-Fossés, même dans votre studio, dans votre atelier de travail. C'est un endroit que vous aimez particulièrement chez vous ?
Oui, quand j'ai visité des maisons il y a plus de 11 ans pour venir m'installer à la campagne non loin de Paris, j'avais envie de cette verdure et de cette quiétude. J'ai d'abord visité les bureaux quelque part, c'est-à-dire je voulais savoir dans quel environnement j'allais travailler. Et tout le reste a découlé de ce chouette bureau. Donc là, j'ai besoin de cette tranquillité maintenant, avec l'âge, pour me sentir bien dans l'écriture et bien concentré.
Alors, il y a plein de choses remarquables ici. Il y a des affiches de concerts, des tableaux. Comment on pourrait décrire ce lieu ?
Ah, comment pourrait-on le décrire ? C'est un lieu synthétique, comme ma vie est synthétique. C'est-à-dire, pendant 10 ans, j'ai vécu en étant uniquement compositeur. Et dans cette période-là, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu à Rome, à la Villa Médicis, puis je vivais dans le 9e arrondissement, dans un appartement, rue Lafitte, en face de chez quelqu'un qui a été mon maître, qui était Rémy Stricker, mon professeur d'esthétique au Conservatoire de Paris. Et puis, quand je suis arrivé ici, je me suis installé ici, pas seul, avec Vardo Guiritian, ma compagne, pianiste. J'ai commencé à avoir une vie multiple, d'abord de chef d'orchestre, puis après de directeur d'institution, puisque j'ai dirigé le Conservatoire de Paris pendant quelques années, puis même d'homme de radio, puisque j'étais producteur sur cette magnifique antenne. Et en fait, ce bureau concentre toutes mes activités. Il y a un bureau d'écriture, c'est celui sur lequel les micros sont installés, un bureau de copie qui est juste derrière moi, où je mets au propre ma musique, mais je fais aussi tout ce qui concerne les courriels ou les courriers. Il y a un bureau administratif qui est à notre gauche, à ma gauche, et qui est aussi un bureau de Lego, parce que je reste un fan de ce jeu de construction. Donc il y a à la fois les impôts à payer et les Lego à construire. Donc si les impôts ne piquent pas tout, j'investis dans les Lego. Il y a en effet deux affiches de concert, les deux de la Scala, parce qu'elles sont très belles. Une qui est dédicacé par Pierre Boulez, puisqu'on avait une tournée ensemble qui a atterri à Milan. Une autre par Philippe Jordan, puisqu'on a fait une création à la Scala ensemble il y a fort longtemps maintenant, en 2013, je crois. Il y a quelques tableaux. Il y a un tableau d'un peintre allemand qui s'appelle Hans Knopper, qui était pensionnaire dans une résidence où moi-même j'ai été pensionnaire. Edenkoben, c'était en 99, qui est un peu l'endroit où je suis devenu adulte, j'allais dire. J'étais en train de finir mes études au Conservatoire de Paris. Il y a un tableau d'un ancien pensionnaire de la Villa Médicis qui est dédicacé sous pseudonyme Klaus Ramska, mais il ne s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Raphaël Thierry dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un prix de la critique gastronomique de mon club gastronomique, le Club des 100, puisque j'avais dû dire des choses fort sympathiques sur un cuisinier parisien. On m'a remis un trophée. Il y a quelques disques qui sont cachés.
Puis il y a surtout une armoire magique avec toutes les partitions qui sont conservées.
Alors ça, oui, c'est les miennes. Il n'y a quasiment pas de manuscrits parce que je les jette, les manuscrits. Il y en a quelques-uns au-dessus parce qu'ils sont encore en état d'être corrigés.
C'est une volonté écologique ?
Non, c'est... Une fois que l'œuvre est écrite, qu'elle est éditée, elle ne m'appartient plus. Donc il n'y a pas de raison de faire... J'ai pas de fétichisme sur le papier noirci par mes crayons, donc... Non, c'est plutôt une forme de désacralisation, de quelque chose qui apparaît des fois de façon beaucoup trop sacrée, précisément. Pour moi, ce n'est qu'un vecteur, l'écriture. Et donc, la partition appartient à Pierre Lemoine, des éditions Lemoine, et c'est lui qui la diffuse, et puis voilà. Il y a un buste de Gabriel Fauré. C'est un très joli objet, en tout cas.
Nocturne jardin, tout rempli de silence, voici que la lune ouverte se balance en des voiles d'or fluides et légers. Elle semble proche et cependant lointaine. Son visage rit cœur de la fontaine, et l'ombre pâlit sous les noirs orangés.
Alors, avant d'être ici à Saint-Maur, le premier lieu que vous avez fréquenté, c'est votre ville natale de Perpignan. Est-ce que la musique, elle était très tôt présente dans votre enfance?
Oui, pas forcément la musique classique, mais j'avais une réaction organique, j'allais dire, au son et à la musique de variété, à la musique qu'écoutaient mes parents, que ce soit Michel Jonas, qui habite à la Varenne-Saint-Hilaire lui aussi, ou Claude Nougaro. Donc j'avais en effet ce rapport très fort au rythme notamment, à la pulsation. Et puis avec très rapidement la découverte par un disque familial et aussi par la télévision, à l'époque où il y avait le Grand Échiquier, de Jacques Chancel, le vrai Grand Échiquier, celle des symphonies de Beethoven par Herbert von Karajan. C'est pas très original, mais ça a déterminé toute la suite des événements.
Est-ce que vos parents, ils étaient musiciens ou mélomanes?
Mes parents sont pas musiciens, sont devenus mélomanes avec moi, mais j'allais dire que notre relation extrêmement forte, puissante et constante n'est pas basée sur le partage de la musique. Et c'est très bien comme ça. Je suis un fils avant d'être un compositeur pour eux, et ils sont mes parents, les parents d'une personne et pas les parents d'un compositeur pour moi. Donc je suis très heureux quand ils viennent écouter mes concerts, en tant que compositeur ou en tant que chef. Mais j'aurais détesté que mes parents affichent une espèce de fierté permanente ou qu'ils me prédestinent à être musicien. C'est pas du tout ça qui entre en jeu. Notre relation dépasse de très loin ce genre de rapport.
Quelle aurait été l'impulsion pour vous pour commencer la musique vraiment sérieusement au conservatoire? Même pas que au conservatoire, de manière générale.
Ah, mais je crois que c'est vraiment la cinquième de Beethoven.
C'est ça le choc.
Oui, c'est le... Comment vous dire? C'est cette chose qui est totalement animale, qui est totalement art brut, ces quatre coups. Et puis, 30 ans après, vous avez tous vos prix du CNSM, vous avez fait une carrière, vous avez dirigé cette œuvre, et vous comprenez toujours pas ce qui se passe, pourquoi ces quatre coups sont quatre élévations successives qui vous portent à vous transcender complètement. C'est l'œuvre ultime pour moi. Il y a des chocs comme ça, qui sont au-delà de tout, au-delà de toutes les autres musiques, et Dieu sait que j'en consomme et que j'en aime. Mais je crois que c'est vraiment ça, le choc.
Quand on pense à la cinquième de Beethoven, on pense aussi tout de suite à Karajan. C'était dans cette version-là que vous l'avez écouté?
Oui, c'était dans cette version-là, puis je l'avais vu diriger à la télévision. Et je ne peux pas dire que le choc Karajan soit comparable au choc beethovenien, mais pas loin. Je veux dire, même aujourd'hui, je pense que c'était un chef, d'abord qui avait un répertoire d'une largeur extraordinaire, qui a défendu la musique de son temps, qui a joué Schoenberg merveilleusement, qui a joué Hindemith, qui a joué... tout un tas de compositeurs comme ça, qui faisaient avec la même ferveur que quand il dirigeait la messe en si de Jean-Sébastien Bach ou les symphonies de Schumann. Et j'ai appris évidemment énormément de Beethoven, mais j'ai appris énormément de Karajan dirigeant Beethoven.
C'est-à-dire?
Un sens du son, un sens de l'énergie. Et puis, vous savez, je suis très fasciné par tout ce qu'ont apporté les baroqueux, les gens historiquement informés à l'interprétation de la musique des 18e et 19e siècles. Mais je reste quand même très sensible à une forme de phrasé long et pas de phrasé court, à une forme de conduite, à un type de vibrato, à un type d'opulence. Et apprécier Gardiner, pour moi, n'est pas non plus un antidote au fait d'apprécier Karajan.
Pourtant, vous écrivez une musique très nerveuse. C'est pas un peu paradoxal, ça?
Oui, en fait, il faut pas confondre nerveux et énergique. Mais il y a une énergie chez Karajan. Mais elle n'est pas incompatible avec autre chose. En fait, je pense que je déteste tout ce qui est univoque dans la vie. C'est-à-dire, tout ce qui a un sens m'ennuie profondément. Et Karajan, dans Mozart, c'est des tempi extraordinairement rapides, mais c'est une tenue de la phrase qui est extraordinairement longue. Et c'est ça qui me fascine. Parce que faire vite et fort, en fait, c'est très facile. Vous mettez dans un orchestre, vous battez plus vite que le copain, et l'orchestre joue plus fort, et c'est formidable. Et c'est quand même une maladie qui est très fréquente chez les chefs actuels, y compris les plus célèbres. Avoir un phrasé plus long qui s'inscrit dans une conduite, qui s'inscrit dans un développement, ça, c'est plus compliqué. Je pense que Karajan était un chef absolument exceptionnel là-dedans.
Ce goût beethovenien, il y a aussi un lien avec le quatuor à cordes, quasi instantanément, c'est une forme que vous aimez en plus beaucoup.
Le genre du quatuor est sacré pour moi. Pas parce que c'est un atelier pour le reste, hein, parce que le quatuor n'est pas un atelier, le quatuor est un genre en soi, avec sa propre complexité, ses propres règles. Mais il y a tellement de choses possibles avec le quatuor, il y a tellement d'identités qui peuvent se révéler par le quatuor. Alors j'ai fait un petit pied de nez à Beethoven dans mon sixième quatuor qui s'appelle Beethoveniana, où en fait je prends tous les quatuors de Beethoven, donc les 16 plus la grande fugue, et je les condense en 10 minutes. Donc c'est une œuvre qui est assez amusante, hein, qui est faite pour, qui est presque un bis. Vous savez, quand vous avez des problèmes dans la vie, vous vous rapprochez instantanément des gens qui vous sont chers. Eh ben les quatuors de Beethoven, c'est ça pour moi, c'est le refuge. Et le quatuor à cordes, d'ailleurs, parce que je dis Beethoven, mais je pourrais associer Bartok, mais je pourrais associer Ligeti, mais je pourrais associer Schubert, tous les quatuors de Schubert, y compris ceux de jeunesse, les quatuors de Schumann, évidemment. Un autre compositeur qui est vital pour moi, qui est Mendelssohn, et notamment les opus 12 et opus 13. Donc c'est un peu la maison maternelle, le quatuor à cordes.
France Musique, les grands entretiens de Bruno Mantovani.
L'équateur de Beethoven, c'est une musique que vous découvrez à quel âge ?
Tardivement, en fait. J'étais en classe d'analyse. Alors, j'avais écouté l'équateur de Beethoven, évidemment, autour de mes 15-16 ans, notamment. J'étais fasciné par l'opus 59, numéro 3, Razoumovski, le dernier Razoumovski. Et puis, quand je suis rentré en classe d'analyse au Conservatoire de Paris, chez Alain Louvier, j'ai mis un peu l'accélérateur sur ce répertoire, à tel point que j'ai passé mon prix sur le dixième quatuor, le quatuor des harpes, qui est une œuvre qui m'a toujours fasciné, qui continue à me fasciner. Cet opus 74, hein, qui est un sommet d'ambiguïté entre le monde classique, hein, le monde romantique, et j'irais presque l'abstraction dans le deuxième développement du premier mouvement. Et je crois que c'est voilà, c'est à partir de mes 20 ans que j'ai vraiment eu une attention permanente à ce répertoire.
Alors, est-ce que c'est la musique de Beethoven qui vous a donné envie, quand vous étiez jeune, de vous inscrire en classe de percussion au conservatoire à Perpignan ?
Alors, on va dire que j'ai trois pères dans les compositeurs. C'est Beethoven, Fauré et Varèse.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil. Ouf, finalement, Beethoven et Varèse, ça me paraît tellement relié. Fauré, c'est encore autre chose. Mais Varèse, c'est un compositeur que j'ai découvert très tôt. Comme beaucoup de gamins, je suis entré en classe de percussion pour faire de la batterie, parce que pour moi, c'était le jazz, etc. Et la place de la batterie, j'ai découvert Boulez, j'ai découvert Ionisation quand j'étais tout petit. J'ai joué cette partition très jeune, parce que Ionisation n'est pas une partition très difficile, on peut la jouer assez facilement. Après 2, 3 ans, 4 années de percussion, il y a des parties de Ionisation qui sont tout à fait accessibles. Et là, évidemment, quand j'ai joué cette musique de bruit, cette musique de son, et pas cette musique de notes, je me suis dit, mais c'est ce que j'aime, c'est ça ma vie. Donc ça a été le deuxième choc qui a articulé mon désir, provoqué mon désir d'écrire de la musique. Et donc je me suis penché plus intensément sur ce corpus, sur la musique pour ensemble, notamment Octandre, qui est une œuvre que j'adore, et puis sur les grandes œuvres d'orchestre type Amérique, que j'ai beaucoup dirigé et qui est très cher à mon cœur. Chez Varèse, il y a aussi, comme chez Beethoven, ce côté premier degré, c'est-à-dire ta-ta-ta-tam. Mais après, quand on regarde de plus près, là, il y a 1000 autres couches d'intérêt. Et Boulez disait qu'il fallait que les œuvres puissent résister à la première écoute, et c'est ça que j'aime chez les deux compositeurs. Elles vous séduisent, elles vous saisissent, et puis après vous avez tout le loisir de vous pencher là-dessus et puis d'en apprécier toute la complexité.
Quand vous étiez jeune étudiant en percussion, ce qui vous intéressait, c'était le fond musical ou c'était de jouer les percussions ?
Les deux, mon général. J'étais un pianiste tendu.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, je suis quelqu'un d'assez maladroit avec mes mains, et j'avais, vous savez, je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin d'Echnoz au piano, qui est un des ouvrages les plus drôles qui soit, et d'abord, j'adore Jean Echnoz, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un style magnifique, et qui raconte des choses souvent très touchantes, mais quand il décrit espèce de vieil prof acariâtre, j'ai connu ça dans ma jeunesse, et ces professeurs qui pensaient que, mon Dieu, si vous jouiez une note de jazz à côté ou une note de musique dépassant 1920, vous étiez un barbare. Et donc, c'était quelqu'un qui avait encore un enseignement à la Schlag, hein, c'est-à-dire presque violent physiquement. Et cette professeure avait réussi à me tétaniser et à me créer plein de tensions dans les bras, dans les épaules. Et il est certain que la percussion m'a beaucoup détendu physiquement, parce que il y a cette spontanéité du geste, hein, une chose très, voilà, très fluide. Donc, je pense que la percussion a eu d'abord cet effet de me détendre corporellement, et puis aussi de me détendre intellectuellement, parce que c'était une ouverture vers la modernité, c'était une ouverture vers l'actualité. C'est bien de vivre dans un musée magnifique, mais enfin, si c'est un musée d'art moderne, c'est pas mal non plus.
C'est le décloisonnement, les percussions.
Oui, oui. Et puis, ça a été après le passage au jazz, un peu de batterie et pas mal de vibraphone surtout, et puis à la variété. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué de variété sur les plages de Perpignan, donc... tous mes étés entre 15 ans et l'entrée au CNSM étaient consacrés à jouer du Stevie Wonder dans les cafés.
Et c'était un plaisir ?
Ah oui, j'ai adoré.
Ça vous a apporté quelque chose que vous voyez encore maintenant ?
Bien sûr, un pragmatisme. Alors après, il y a même des choses très drôles. Vous êtes dans une soirée paella dans un camping de Barcarès. Vous êtes là pour faire le bruit de fond et... quand vous voyez que vous jouez pas mal et que les gens vous écoutent un peu, c'est une espèce de victoire. Vous dites, tiens, j'ai réussi à leur faire changer leur intérêt et à plus moins se consacrer à l'assiette, un peu plus aux oreilles. Mais non, c'était un plaisir. Mais je vais vous dire, il y a des fois où ça me manquerait presque. Où j'irais bien.
Jouer de la variété ?
Oui, dans un bistrot, comme je le faisais à l'époque, hein, avec un batteur, un bassiste, une chanteuse. Franchement, si je pouvais faire ça une fois par an, à Canet-en-Roussillon, je le ferais bénévolement et je le ferais tout de suite, je crois.
étiez étudiant en percussion à Perpignan, vous aviez envie de jazz et d'improvisation aussi ?
Oui, oui, oui. Alors l'improvisation, la spontanéité sont des choses très importantes. En même temps, je ne confonds pas l'improvisation et l'écriture. C'est-à-dire, le côté j'improvise et puis je note mon improvisation et ça donne une œuvre, je n'y crois pas. Parce qu'on a des tics quand on improvise. Quand on écrit aussi, on a des tics. Mais enfin, on contrôle mieux ces tics dans l'absence de spontanéité de l'écriture que dans la spontanéité absolue de l'improvisation. Donc j'ai adoré l'improvisation, mais j'en vois aussi des limites.
À quel moment vous vous êtes dit que vous alliez entrer dans la classe de composition à Perpignan ?
Ben, le jour où elle a été créée. J'avais 15 ans, Christophe Baudot est arrivé avec sa double culture instrumentale électroacoustique. C'était un professeur extrêmement exigeant qui était très jeune. Alors moi aussi j'étais très jeune, donc il y avait une génération d'écart entre nous. Mais il avait cette espèce d'exigence qu'on a à 30 ans et que peut-être on apprend à maîtriser un peu plus tard.
Pierre Boulez disait que, j'ai entendu une interview de Pierre Boulez qui disait qu'on ne pouvait pas être professeur après 30 ans d'ailleurs.
Mais c'est pas faux. Alors, c'est toujours aussi excessif parce que Pierre Boulez était excessif, mais je vois très bien ce qu'il veut dire. Pierre Boulez, c'est comme la Bible. Il y a un texte et puis il y a l'exégèse. L'exégèse est souvent beaucoup plus intéressante que la Bible elle-même ou que le texte lui-même. Donc, il y a toujours cette provocation chez Boulez, mais bien sûr qu'on transmet des choses. En tout cas, on transmet pas les mêmes choses à 25 ans ou à 30 ans et à 60 ans. Et donc, Christophe avait cette espèce de jusqu'au boutisme qui secouait un gamin de 15 ans. Mais qui m'a fait gagner peut-être 10 ou 20 ans, parce qu'il m'a mis tout de suite au milieu de la matière. Et j'avais deux professeurs de composition. J'avais Christophe Modeau et j'avais France Musique. Parce que j'écoutais cette émission qui s'appelait Espace Contemporain, qui était quotidienne. Je pouvais écouter ça un peu à la pause de midi au lycée. Et j'étais connecté à l'actualité musicale en permanence. Et Modeau me donnait les outils pour comprendre. France Musique me donnait la matière. Et finalement, je crois que j'ai jamais autant dévoré intelligemment, si je puis dire, de musique qu'entre 16 et 18 ans. Le répertoire du GRM, avec avant tout Guy Rebel, qui a été mon professeur au Conservatoire de Paris, François Bell, qui est pour moi un grand génie de l'histoire de la musique, et Christian Zanesi, dont le travail a définitivement marqué mon oreille. Je dis souvent que j'ai plus appris le contrepoint avec la musique de Zanesi qu'avec les traités de contrepoint que l'on pratique tous, de Noël Gallon, etc.
Et qu'est-ce qu'elle avait, la musique de Zanesi, de particulier ?
Elle a cette conception de l'espace qui est pour moi une leçon d'orchestration absolue. Vous écoutez une œuvre en stéréo de Christian Zanesi au casque et vous avez l'impression qu'il y a des sons qui viennent de partout. Il y a une définition aussi des registres. Pour moi, Zanesi a un point commun avec Verdi, avec Wagner, c'est que quand il met un son dans un endroit du spectre acoustique, il est suffisamment précisément écrit pour qu'il ait une forme de nécessité. Vous savez, chez Wagner et chez Verdi, on entend toujours la voix et on comprend toujours parce que Verdi et Wagner créent des trous acoustiques. Il laisse la place à la voix. Par exemple, si on a une voix dans le médium, il y aura des graves, il y aura des aigus, mais il n'y aura rien dans le médium. Et chez Zanesi, il y a ça. Il y a une définition du son spectral qui fait que, finalement, tout est toujours élégant parce que audible. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Quand j'écris de la musique d'orchestre, ce qui est mon dada favori, j'ai toujours cette culture-là du GRM dans l'oreille.
C'est avec les frémissements presque électriques de Stop l'horizon de Christian Zanesi que se referme ce premier volet des grands entretiens avec le compositeur Bruno Mantovani. Demain, nous irons de Perpignan au Conservatoire de Paris et verrons comment se forme un compositeur de notre temps. Aujourd'hui à la technique, il y avait Hervé Dubreuil et Olivier Dupré, attachés de production Marie Ferdinand, une réalisation de Lionel Quentin. Les grands entretiens de Bruno Mantovani, c'est à retrouver en réécouté en podcast sur le site francemusique.fr et l'appli Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.